D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Le travestissement prend des formes diverses. En 2012, dans Secret professionnel, je recevais David Dumortier, qui a raconté sa vie de travesti dans un livre ayant ce nom pour titre « Travesti ». Il était venu en homme dans le studio, mais racontait qu'il aurait voulu être une femme. Et pour l'expliquer, il écrit dans son livre cette phrase frappante « J'ai toujours rêvé d'être une femme un peu conne ». Il voulait dire par là une femme qui tire son chariot de course dans un supermarché, n'est pas excessivement bien habillée, va chez le coiffeur, enfin, je suppose, normale. Le travestissement, dans ce cas-là, consiste plutôt à entrer dans l'invisible. Hier soir, je regardais un spectacle du comique anglais Eddie Izzard. Il porte des talons, une jupe, du maquillage et fait des sketchs. Rien de plus. Son travestissement est un élément non pas de comique, car il n'est pas habillé de manière bouffonne, mais disons de narquoiserie. Il semble vouloir introduire comme un trébuchement. C'est assorti à ses idées car c'est un comique de gauche libérale, espèce rare. La plupart des auteurs de sketchs aujourd'hui sont des populaciers de la première espèce. Et puis, comme Eddie Izzard n'insiste pas, on cesse d'analyser la raison de ce travestissement qu'on voit sur la scène. Il est devenu son naturel et le nôtre. Cela, c'est le travestissement pour le spectacle. C'est de cette forme-là, me semble-t-il, que participent les drag queens. Ce sont des êtres spectaculaires. Une drag queen, c'est la tour de Pise. Elle se hausse sur des talons exagérément hauts, elle porte une perruque qui semble sculptée dans de la pierre, elle se penche, avec un regard légèrement dédaigneux, sur l'humanité en bas. La drag queen est une créature. Quel est le secret professionnel des drag queens? J'en reçois pour en parler Jean Boulanger, il est avocat au barreau de Paris et va nous dire comment et peut-être pourquoi, s'il y a besoin d'un pourquoi, il lui arrive de se transformer en créature. Jean Boulanger, puisque vous êtes avocat, il faut dire que vous exercez déjà un métier de travesti puisque vous portez une robe. Est-ce que cela serait-il plus ou moins consciemment entré en compte dans le choix de votre métier ?
La robe que l'on porte à l'audience est très différente des robes que je porte le samedi ou le vendredi soir quand, avec mon groupe d'amis, nous passons à l'acte et nous revêtons nos plus beaux habits pour sortir. Alors je ne sais pas si on peut se définir comme des drag queens, je ne sais pas si on peut se définir comme des travestis, je ne sais pas aujourd'hui définir ce que l'on est, simplement comme on a coutume de le dire. Et je parle à la troisième personne, parce que c'est un acte qui est avant tout collectif. C'est un exercice de groupe, celui de se mettre en femme. Se mettre en femme avec ce petit groupe de garçons, une dizaine, tous d'une trentaine d'années, tous appartenant à des catégories socio-professionnelles plutôt élevées, qui ont grandi dans des villes importantes, dans des milieux sociaux privilégiés. On aime se transformer et devenir femme. Devenir femme pour la fête, devenir femme pour rechercher une autre personnalité qui est à l'intérieur de nous. Il y a bien souvent beaucoup d'interrogations, beaucoup de recherches, de se dire comment vais-je m'habiller, quels talons vais-je porter, quelle image je veux donner. Et puis, à force du temps, puisque ça fait maintenant 5, 6, 7 ans que je me déguise en femme, je deviens femme lorsque nous sortons, eh bien, je me suis façonné un personnage et chaque personne de mon groupe s'en est façonné un aussi.
Alors, pour que ceux qui nous écoutent aient une image de ce que vous êtes, puisque nous parlons de transformation physique, je voudrais que vous me disiez, alors vous avez dit votre âge, vous avez une trentaine d'années, quelle est votre taille?
Alors, je mesure à un petit 1m80.
Et quel est votre poids?
Et je fais à peu près 70 kilos.
Et vous êtes brun?
Je suis brun plutôt clair, j'ai les yeux verts.
Et vous ne portez pas de barbe, je présume, ce qui est une chose indispensable pour le travestissement.
J'ai cette chance d'être imberbe, mais certaines de mes consoeurs sont barbues et se rasent.
Cela dit, les sœurs de la perpétuelle indulgence qui sont dans Paris sont des hommes déguisés en femmes et en bonnes sœurs, mais qui conservent leur barbe.
C'est possible, et puis on l'a vu très récemment avec Conchita Wurst qui se déguise en femme, mais qui a une barbe.
Donc justement, ça c'est une chose intéressante. Est-ce qu'il y a des présupposés favorables au travestissement ou non? Parce que vous, en vous regardant, on imagine, vous êtes un homme jeune, vous êtes imberbe, on voit, j'imagine en vous voyant, comment vous pouvez vous transformer relativement facilement en femme. Mais est-ce qu'un homme de 2 mètres 10, qui serait carré comme un volleyeur et avec une barbe, pourrait-il précisément se transformer en femme?
C'est avant tout un grand travail intérieur, c'est-à-dire que je pense qu'il faut se sentir, avoir l'envie de devenir femme pour l'être. Donc, une carrure de volleyeur, un barbu, tout type d'individu avec des physiques particuliers peuvent se transformer et devenir ce qu'ils ont envie d'être.
Mais quand vous dites... il faut avoir envie de devenir femme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, devenir femme? C'est avoir envie de devenir une idée d'une femme?
C'est exactement l'idée de ce que pour moi est la femme. Moi, je suis, quand je me transforme, une femme très élégante, mais très bling-bling. Avec énormément de bijoux, des diamants partout, des perruques extraordinaires, très bien coiffées, beaucoup de maquillage, mais... discret, avec des modèles qui seraient Rania Jordani, qui seraient John Collins, qui seraient des femmes qui sont extraordinaires et qui ont l'élégance, le naturel, et vous le soulignez très bien dans votre introduction, cette capacité à survoler ce qui se passe. Les talons hauts donnent cette faculté et cette capacité. Et je crois que les femmes ne se rendent pas compte du pouvoir qu'elles ont lorsqu'elles sont sur des talons.
À mon avis, elles s'en rendent très bien compte.
Mais pas autant. Je pense qu'avec notre place, ma place d'homme, parce que je suis un homme et je reste un homme, je me rends compte réellement de ce que c'est que ce pouvoir de la femme qu'elle a en plus de nous, de pouvoir porter des talons tous les jours.
Quand vous dites que vous vous transformez, ça veut dire que vous vous transformez toujours dans le même personnage de femme, c'est ça?
Disons qu'il y a une récurrence dans l'attitude, dans l'habit. Il y a une forme de continuité.
Mais quand vous dites que c'est un personnage, est-ce que vous estimez que c'est différent de l'exemple que je donnais dans mon introduction de ce David Dumortier qui s'est investi et qui rêve d'être une femme un peu conne, tout à fait ordinaire? Vous, c'est pas votre affaire, ça.
Être une femme ordinaire, mais avec une certaine classe. C'est-à-dire que...
Mais est-ce que vous promèneriez avec un cabas, des poireaux et une jupe en rayonne avec des fleurs?
Alors, j'y ai jamais réellement pensé, parce que moi, je vis ce travestissement comme l'objet d'une fête. Et c'est-à-dire, ça nous est arrivé dans notre groupe de nous déplacer dans la journée, quand nous étions à la campagne, à des occasions un peu particulières, avec l'idée derrière aussi, qui est une forme de provocation, qui est une forme de, comment dire, d'exagération de nos traits de caractère, parce que en changeant de vêtements, en changeant d'apparence, en changeant de sexe, de manière, pour un temps très réduit, eh bien, on devient quelqu'un d'autre aussi. Et on fait naître quelque chose d'extraordinaire qui est en nous, c'est cette dualité de personnalité, où c'est même au-delà, l'être humain est très complexe, et on fait naître de nouvelles choses, de nouveaux éléments de notre personnalité en se transformant. Donc, on a des traits de caractère qu'on n'exprime pas en homme, et qu'on exprime lorsque l'on est en femme.
Et vous, quel est ce trait de caractère?
Je crois que, avant tout, c'est une forme d'exubérance, et peut-être l'absence de limites.
Ça veut dire que c'est une compensation ou c'est une comédie? Parce que, d'abord, une chose intéressante, c'est que vous ne faites donc pas ça tout seul. Vous ne vous maquillez pas le samedi et sortez tout seul dans la rue.
Exactement.
Vous sortez avec une bande d'amis, donc il y a un élément de comédie, j'imagine.
Il y a un élément de comédie qui est très important. C'est une bande d'amis qui sont parmi mes meilleurs amis. On s'appelle les bonnes copines, les BC. Et on écume les soirées, surtout gays parisiennes, depuis 5-6 ans, en respectant des thèmes, en étant souvent habillés de la même manière, en se déplaçant dans des lieux. C'est ce qu'on aime, c'est le public. Parce qu'il y a un côté comédie, parce que ce que l'on recherche avant tout, pas avant tout, mais ce qu'on recherche aussi, c'est le public. Donc, il nous arrive de prendre le métro pour nous rendre à ces soirées, de faire des shows dans le métro.
Vous ne faites pas casser la figure dans le métro ?
Ça ne nous est jamais arrivé. Écoutez, la seule fois, parce que nous voyageons beaucoup, on a une tradition, c'est que pour les 30 ans de l'une de ces personnes, enfin de la personne, des personnes composant les BC, eh bien, on part dans une capitale européenne qui lui correspond. Et on se déguise. On sort dans les clubs, dans les restaurants. Et le seul endroit où on a été embêté, c'était Amsterdam. Et c'était par des Français. Depuis,
C'était dans la rue,
ils nous ont agressés verbalement. Mais on a quand même l'avantage du groupe, du nombre, et de faire peur aussi. Parce que une bande de nanas un peu délurées... de plus d'un mètre 80, 90 avec les talons, on a peur de s'y frotter.
Est-ce que vous avez un nom de personnage, puisque vous dites que vous êtes toujours la même personne, plus ou moins ?
Comme toutes les BC, je suis obligé d'avoir un nom de personnage qui m'est donné par mes pères.
Ah, ce n'est pas vous qui l'avez choisi ?
Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, et aucune des BC n'a choisi son nom. Ça fait l'objet d'un processus très compliqué. Et mon nom est Vania.
Alors, vous sortez uniquement la nuit et ou pas ? Est-ce que vous sortez le jour ? Est-ce que vous sortez, mais vous avez déjà en partie répondu, uniquement dans des lieux gays ou pas ?
Alors, il nous arrive de sortir le jour, mais c'est souvent à la campagne.
Pourquoi à la campagne ?
Parce que ça c'est propice à des situations, de se retrouver dans un bar, parce que ça nous fait rire. Et puis, ça nous est arrivé d'aller dans des clubs, hétérosexuels. Et là aussi, à la campagne, c'était très drôle. C'était très, très, très drôle.
Et vous êtes plutôt bien accueillis.
On a été plutôt bien accueillis. Voilà.
Et est-ce que vous ne voulez pas me raconter une chose que vous m'aviez racontée d'une, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une intervention dans un restaurant à Paris, boulevard Saint-Germain, qui n'est pas le plus élégant de la ville ?
Et ça nous est arrivé de faire des interventions dans certains lieux de la capitale un peu emblématiques. Là, c'était pour une soirée particulière où nous étions en burqa. Et nous avons fait éruption dans un restaurant boulevard Saint-Germain dans lequel nous avons dansé en posant un sac de grandes marques françaises au milieu et en faisant des farandoles.
Et ça... D'une certaine façon, est-ce que vous n'êtes pas dit « on va se faire casser la figure si on sort en burqa par des vrais musulmans ?»
Je pense que ça ne rentre pas en ligne de compte quand on choisit de le faire. Ensuite, si la situation se présentait, on verrait.
Est-ce que dans ce cas-là, il y a un élément de double satire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément pour vous, quand vous êtes allé dans ce grand restaurant, pour se moquer du côté un peu bling-bling du restaurant et de gens qui y vont avec des grands sacs de grandes marques ? Est-ce que c'est en même temps un côté satirique vis-à-vis d'une religion, celle-ci, ça pourrait être une autre, qui opprime les femmes ?
Alors, il n'y a pas du tout de recherche de politique dans notre action qui n'en est pas une, dans cet amusement que l'on pratique. Le seul peut-être... point qui pourrait relever d'une volonté politique, c'est simplement de vivre la liberté complète et totale. On ne viole aucune loi, on ne viole aucun droit et simplement on vit libre.
Nous allons entendre I Am What I Am, chanson de la comédie musicale tirée de La Cage aux Folles par le London Theatre Orchestra. I Am What I Am, je suis ce que je suis, chante le personnage dans ce qui est en quelque sorte devenu l'hymne national des drag queens.
I am what I am. I am my own special creation. so come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am...
Jean Boulanger, je voudrais en revenir un instant sur votre expérience avant d'élargir le sujet. Vous parlez depuis le début de notre... secret professionnel, de deux choses à la fois, et que je voudrais que vous m'éclaircissiez, que vous éclaircissiez pour moi. C'est-à-dire que vous faites des choses quand vous vous travestissez avec vos amis pour le public, puisque c'est un spectacle, mais aussi, vous dites que vous faites ça pour vous et pour éveiller un élément de personnalité en vous. Qu'est-ce qui est essentiel dans tout ça? Est-ce que c'est la part d'être en bande et spectaculaire, ou est-ce que c'est vraiment très important pour vous de vous dire que jaillit quelque chose qui est enfermé le reste du temps dans la vie?
Je pense qu'il y a une grande part de fête et il y a une grande part d'amusement. Mais je crois aussi que c'est une forme d'exutoire, que on a tous des postes à responsabilité, on a tous du stress, parfois des difficultés, et que c'est une manière de sortir d'un quotidien, de sortir d'une norme, et d'aller toujours peut-être un petit peu plus loin aussi. Et c'est vrai que ça participe de notre équilibre. Je ne sais pas si c'est un besoin, mais de temps à autre, on se dit, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mis en femme, ça serait bien de le faire. Et se crée cette envie commune, cette recherche aussi commune de l'habillement, de liens, en fait, pour arriver à faire en sorte que ça soit un bon moment, qu'on se fasse plaisir à l'une et l'autre en s'offrant des petits cadeaux, en faisant vraiment attention à ce qui va se passer. Donc il y a cet aspect qui est très intéressant aussi, c'est que ça soude aussi notre groupe, ça développe des amitiés et une forme de sincérité vis-à-vis de l'un et l'autre, des uns et des autres. On recherche évidemment au plus profond de nous-mêmes un certain nombre d'éléments pour construire notre personnage. Mais je pense qu'avant tout, il y a une recherche de la fête. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas pour régler des problématiques psychologiques ou psychiatriques.
Est-ce que vous diriez que aussi, d'une certaine façon, tout ça, ça serait pour préserver ou recréer une part d'enfance? C'est-à-dire, vous êtes en bande, vous imaginez des personnages. Tout ça, c'est un monde féerique, même si vous affrontez la réalité que vous sortez. Est-ce que c'est pas... Parce que l'enfance, c'est aussi être en bande. Être en bande, c'est très protecteur, c'est très charmant, c'est très tendre. Est-ce que c'est pas une façon très simple aussi de perpétuer l'enfance, ou c'est faux ce que je vous dis?
Alors, je ne sais pas si c'est pour perpétuer l'enfance. Il est sûr que en créant un groupe, avec des règles, avec des codes, avec des obligations envers ce groupe, envers les personnes du groupe, on se recrée un monde. On se recrée une forme de petit cercle qu'il est très difficile de pénétrer, qu'il est bien souvent très compliqué de comprendre, qui reçoit aussi beaucoup de rejets, parce qu'on fait souvent bloc, et on a... un humour un peu caustique, on est facilement pince sans rire, on a beaucoup de joutes verbales, beaucoup de réparties. Donc c'est aussi un lieu dans lequel on se cherche et qui peut être, et qui crée aussi une forme de cloison avec le monde extérieur. C'est aussi la recherche de ça.
Est-ce que, je n'ai toujours pas compris si je devais dire drag queen, ça n'a pas l'air d'aller. Depuis tout à l'heure, vous dites on se met en femme. Est-ce que c'est si important d'avoir un nom d'ailleurs? Mais si je dois qualifier ce que vous faites, qualifiez-le vous-même. Quel est le bon mot s'il y en a un? Comment vous dites entre vous? Quand vous vous téléphonez, quand vous téléphonez à Georges, Pierre et Michel et que vous allez vous transformer en Vania et les autres, qu'est-ce que vous dites? On se met en femme? On se travelote?
Je crois que c'est très difficile de définir ce qu'on est. Et c'est très difficile en général de définir la drag queen, le travesti. Et nous, on aime dire qu'on se met en femme. Ou alors qu'on se travelote. Il y a plusieurs termes, mais le terme le plus utilisé, c'est « on se met en femme ». Et c'est vraiment cette transformation. Je ne crois pas qu'on puisse nous mettre dans une case ou dans une autre. On n'est pas des travelots, on n'est pas des drag queens. Nous sommes des hommes qui aimons nous habiller en femme.
Quels ont été vos modèles, s'il y en a, et quelles sont vos idoles, s'il y en a, ou qu'il y a quelques, alors je vais employer le mot parce que je n'en connais pas d'autres, drag queen célèbre dans le monde actuellement, comme RuPaul, l'Américain, qui a d'ailleurs une émission de télévision aux États-Unis où il fait des concours de travestissement. Est-ce que c'était d'autres, est-ce que c'était Divine dans les films de John Waters et son personnage de drag queen ou de travesti trash?
Alors, pour ma part, les modèles sont uniquement féminins et viennent pas du tout du monde des drag queens ou du travestissement qui je trouve fascinant, mais ce n'est pas des modèles pour nous. Enfin, en tout cas, pour notre groupe, on a l'image soit de nos mères, de la femme bourgeoise, soit de femmes du monde, qui sont pas forcément des modèles les plus les grands canons de beauté. On adore Lily Safra, par exemple, qu'on trouve une femme délicieuse. On adore Anne-Marie de Guenay. Voilà, c'est des modèles de femmes qui sont pas forcément les plus connues non plus.
Est-ce que les modèles de travestis français célèbres comme Coccinelle dans les années 50, ça a compté? Est-ce que c'est...
Alors, pour moi, non, même si je les connaissais, et pour l'époque, et c'est intéressant de voir que on avait des cabarets comme le Carrousel ou chez Madame Arthur qui sont nés après la guerre et qui ont mis en place et surtout montré au monde des spectacles de travestissement et aussi de personnes qui étaient en recherche d'un changement de sexe, parce qu'il y avait aussi dans ces troupes de comédiens des gens qui recherchaient autrement une façon de devenir, de rentrer dans l'autre sexe, de devenir femme, et qui n'avaient pas trop d'autre choix au départ que de commencer par le spectacle et le travestissement. C'est l'exemple de Bambi qui a commencé comme cela et qui petit à petit a pris son courage à deux mains et a réussi à devenir ce qu'elle était, une femme.
Parce que parfois dans le passé, vous me direz si dans le présent c'est pareil, ce travestissement était une manière de surmonter aussi un mépris social. Par exemple, il y a un très bon documentaire de James Livingston qui date de 1990, qui s'appelle Paris is Burning, Paris brûle, et qui montre des concours de danse travestie à New York, et plutôt des jeunes blacks, et qui prennent très souvent, qui défilent, qui font des concours de défilé en parodiant les photos de Vogue, chose qui a été plagiée plus ou moins par Madonna dans sa chanson Vogue après. Donc là, il y a une part aussi de malheur surmonté aussi, non?
Et oui, vous l'expliquez très bien, le fait de parodier un certain nombre de modes ou alors d'essayer de ressembler à des personnes qui, au fond, sont très intégrées dans la société alors que sont rejetées, c'est très intéressant de voir que ces personnes ont recréé un monde dans lequel ils étaient acceptés tels qu'ils étaient. Et c'était dans beaucoup de jeunes hommes de afro-américains ou de communautés hispaniques ou latino-américaines qui avaient de grandes difficultés à assumer aussi leur homosexualité dans les années 90.
Alors ça aussi, évidemment, c'est une question importante. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes gay?
Oui, moi je suis gay.
Et dans votre bande?
Et on est tous gays.
Vous êtes tous gays. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une affaire, sans que ce soit plus grave que ça, de gay, ou que vous pourriez dans votre bande avoir des hétéros?
Alors, je ne sais pas si dans notre bande, on pourrait avoir des hétéros, parce qu'on est très, très sectaire. Je dis ça, évidemment, en rigolant, mais le casting est très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à avoir des hétéros, surtout avec le bizutage qu'on leur ferait subir. Mais plus sérieusement, en tout cas, le travestissement tel que je le vis, c'est dans le monde gay. Mais il est évident que moi, j'ai eu vent d'histoires dans mon entourage de personnes qui découvraient un père, un oncle, qui se travestissaient dans des situations complètement hétérosexuelles, dans des couples hétérosexuels, avec un homme qui s'enfermait pour se transformer en femme.
Mais ça, c'était les temps passés, et j'ai l'impression que votre expérience et ce que vous me dites là, parce que ces temps passés laissent entendre que le travestissement, c'était une chose justement de souffrance, surmontée, on était homosexuel, on n'osait pas le dire, on s'habillait en femme alors qu'on est marié, des choses comme ça. Ça n'est pas votre expérience à vous, vous êtes gay, vous vous travestissez pour vous amuser, pour faire les fous avec vos amis, mais est-ce que, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça ne veut pas dire non plus nécessairement que le travestissement doit mener ou mène au transsexualisme.
Alors, je pense qu'il faut clairement définir les deux notions et mettre une distance très importante entre les deux, car le travestissement ne veut pas dire du tout avoir envie de changer de sexe. Oui, c'est vraiment rien à voir.
En revanche, il y a une chose qui est peut-être plus subversive que vous n'avez l'air de le dire, c'est que même si vous avez un peu l'air là de nous dire que vous êtes des suppôts du capitalisme bourgeois en parodiant des femmes du monde et que vous confortez l'ordre dominant en ressemblant à lui, il y a quand même une chose qui est très floue là-dedans et qui est intéressante, c'est quand même la question du genre. Et nous savons aussi que c'est la question qui actuellement hystérise la société française, où on voit des politiciens à tout prix essayer de nous faire croire que des théoriciens du genre supposés voudraient transformer les petits garçons en petites filles et des choses comme ça. Et ils ont hystérisé le personnage de Judith Butler, en particulier la philosophe américaine, qui est tout d'un coup devenue un démon alors que personne ne l'a lu.
Alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler, mais simplement c'est vrai que l'hystérie qu'on a autour de ces questions de genre sont terribles, parce que cette classification de l'individu par le sexe uniquement, ça nie toute la complexité de l'individu. Et c'est aussi terrible pour les personnes transgenres, c'est aussi terrible pour les personnes qui ne se sentent pas dans le bon corps, qui sont nés avec l'envie d'être garçon alors qu'ils sont filles, ou l'envie d'être fille alors qu'ils sont garçons. Et ça, c'est dingue qu'aujourd'hui encore, on en soit dans une situation où on fustige ce genre de personnes. Car il faut les encourager s'ils ont envie de devenir ce qu'ils sont.
Bien entendu. Pour finir, Jean Boulanger, j'ai une question. Est-ce qu'au fond, vous ne travaillez pas contre le temps? C'est-à-dire, parce que moi, ce qui me semble, c'est que dans ce que vous faites, c'est vous êtes, alors mettons drag queen ou pas drag queen ou créature, mais au fond, une drag queen n'est jamais vieille.
C'est vrai que ça facilite un petit peu, disons, la prise d'âge, car le maquillage aide, mais il fait vieillir aussi, puisque ça abîme très fortement la peau. Mais non, plus sérieusement, c'est une recherche d'intemporalité, mais on est, en tant que garçon, aussi dans cette recherche. On court après le temps, on court après la jeunesse. Nous, on a la capacité de vivre deux vies, et donc de doubler le temps. On est à la fois homme et femme.
C'était Secret Professionnel, le 231e. Réalisation, Clotilde Pivin. Attachée d'émission, Daphné Abgral. Prise de son, Pierre Monteil. Recherche INA, Sophie Chauveau. Dans un instant, une saison au théâtre.